Alors, bon réveil et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Masqué ou non, différents visages de la crise sanitaire à la une ce matin. Donald Trump, tout d'abord, il a quitté hier soir l'hôpital militaire où il était soigné. Même s'il souffre encore du Covid-19, il a retiré son masque dès son retour à la Maison-Blanche et appelé les Américains à sortir de chez eux, à ne pas laisser le virus dominer leur vie.
Les Italiens, tous masqués eux-mêmes, Silvio Berlusconi, depuis qu'il a été malade, des règles sanitaires strictes et bien observées, l'Italie, durement frappée au printemps par la pandémie de Covid-19, résiste aujourd'hui face à la hausse des nouvelles contaminations.
Le visage de la crise sanitaire en Europe, en France. Plusieurs visages, ce sont des Parisiens et des Franciliens, privés de soirées dans les bars pour 2 semaines au moins. Des employés, encouragés par le gouvernement à faire du télétravail, mais sans loi ni accord national sur le sujet, c'est encore le flou suivant les entreprises. À la une encore, les députés ont approuvé cette nuit le retour des néonicotinoïdes, mais ces insecticides tueurs d'abeilles divisent encore l'Assemblée.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on va revenir sur ces catastrophes climatiques et notamment celles que l'on a observées dans les vallées de l'arrière-pays niçois. Comment expliquer ces crues exceptionnelles? Je poserai la question à la climatologue Caroline Müller.
Une sortie d'hôpital digne d'une mise en scène hollywoodienne, comme un défi à toutes celles et ceux qui se couvrent le visage pour se protéger du Covid-19. Aux États-Unis, 4 jours après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, Donald Trump a finalement choisi hier soir de quitter l'hôpital militaire où il était soigné et de regagner la Maison-Blanche en hélicoptère. En arrivant dans sa résidence, le président américain a retiré son masque et levé les pouces en signe de victoire. Il a ensuite enregistré une courte vidéo dans laquelle il appelle les Américains à sortir de chez eux et à battre le coronavirus.
J'ai appris tellement sur le coronavirus et une chose est certaine, ne laissez pas cette maladie vous dominer. N'ayez pas peur de ce virus, vous allez le battre. Nous avons les meilleurs équipements médicaux, les meilleurs traitements, tous développés récemment. Et vous allez vaincre ce virus. Je ne me sentais pas très bien, mais il y a 2 jours déjà, j'aurais pu quitter l'hôpital. Je me sentais bien, mieux que jamais, mieux qu'il y a 20 ans. Nous sommes le plus grand pays au monde. Nous allons retourner au travail, monter au front. Je suis votre président et je devais faire cela. Je savais qu'il y avait des risques, mais je devais agir ainsi. Je me sens mieux aujourd'hui. Peut-être que je suis immunisé, je ne sais pas. Mais ne laissez pas ce virus dominer vos vies. Sortez de chez vous. Et soyez prudents. Merci beaucoup.
Donald Trump, traduit par notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. Le président n'est pas encore sorti d'affaire, mais nous l'avons autorisé à quitter l'hôpital, précise le médecin personnel du président américain. Son retour à la Maison-Blanche, diffusé en direct sur les grandes chaînes de télévision, a éclipsé le déplacement en Floride de son adversaire démocrate Joe Biden. Donald Trump, encore malade, annonce sur Twitter reprendre le chemin de la campagne présidentielle au plus vite et il promet des emplois grâce à la remontée de Wall Street après son retour de l'hôpital. N'ayez pas peur du Covid et sortez, c'est en faisant tout l'inverse de ce que préconise Donald Trump que l'Italie résiste en ce moment au rebond épidémique constaté partout ailleurs en Europe. Le reportage à Rome de Bruce de Galzin.
Dans les rues de Rome, tous portent un masque et l'on fait de nouveau la queue devant les magasins. Valentina vient du nord du pays, elle reste très attentive.
L'Italie a été le premier pays à vivre cette situation. On a pris peur, surtout nous qui venons de Vénétie, l'une des premières régions touchées. Et donc on fait tous attention. On porte le masque, on utilise des désinfectants, on applique même une certaine distanciation sociale.
Ces règles sont rappelées sans cesse par les autorités. Et même Silvio Berlusconi, lorsqu'il est sorti de l'hôpital, a lancé un appel.
C'est une maladie grave et vraiment insidieuse. Il faut respecter rigoureusement les règles sanitaires. Faites-le pour vous-même, pour vos amis, vos enseignants, pour vos parents et vos grands-parents qui pourraient être contaminés.
Car les foyers se déclenchent surtout dans le cadre privé. À l'école, il y a encore très peu de cas, comme l'explique Alessio D'Amato, chargé de la santé dans le Latium.
La grande majorité a été contaminée en dehors de l'école. L'école n'aggrave pas la difficulté.
À l'école, le masque est gratuit, obligatoire dès 6 ans et les classes sont divisées. Mais les élèves sont rentrés il y a seulement quelques jours.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les bars de Paris et de sa petite couronne ont tiré le rideau pour 2 semaines au moins.
L'épidémie va trop vite, il faut la freiner avant que le système de soins ne soit débordé, a expliqué hier le préfet de police de Paris, Didier Lallement, lors d'une conférence de presse aux côtés notamment de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le télétravail va-t-il donc s'intensifier et se généraliser pour les 7 millions d'habitants qui ont basculé aujourd'hui en alerte maximale? Le gouvernement le suggère sans pour autant contraindre les entreprises, Catherine Pétillon.
Intensifier le travail à distance autant que possible et tant que la situation sanitaire l'exigera. Voilà, je cite, l'effort collectif demandé aux entreprises par la ministre du Travail. En Ile-de-France, l'une des zones en alerte maximale, même encouragement exprimé par le préfet de police, le directeur de l'agence régionale de santé et la présidente de région Valérie Pécresse. Mais pas plus. Cela dépend donc des choix des entreprises et même pour les plus grosses, de la façon dont cela est mis en œuvre dans les directions ou les services. En août, le télétravail concernait 1 salarié sur 10. Il n'y a pas encore de statistiques pour septembre, mais à la rentrée, la majorité des entreprises ont fait revenir leurs employés sur site. Et désormais, selon la taille, le secteur, la culture des dirigeants, elles se montrent plus ou moins enclines à suivre les encouragements des autorités. Au ministère du Travail, on explique que d'un côté, le monde de l'entreprise est l'un des endroits où les gestes barrières sont les mieux respectés. Et que de l'autre, le télétravail permet de protéger la santé des plus fragiles et surtout de désengorger les transports en commun. Mais pour trouver ce juste équilibre, le gouvernement ne souhaite pas prendre de mesures coercitives. Il renvoie à la négociation sociale dans chaque entreprise. En attendant, dans l'état actuel des choses, un employeur n'est pas obligé d'accepter une demande de télétravail. En revanche, si le poste est éligible au télétravail, il doit motiver son refus. Après de longs mois à temporiser, les représentants du patronat ont finalement accepté le principe d'une négociation en vue d'un accord national interprofessionnel sur le télétravail. Elles doivent démarrer le 3 novembre.
Autre conséquence du passage en zone d'alerte maximale, la réduction de la jauge dans les universités de Paris et de sa petite couronne. Les amphis ne pourront être remplis qu'à 50% de leur capacité. Une partie de l'enseignement devra se faire à distance. Encore faut-il pouvoir organiser de tels cours dans des conditions techniques aujourd'hui dégradées, souligne Anne Roger, co-secrétaire générale du SNESUP-FSU, principal syndicat d'enseignants-chercheurs.
Du jour au lendemain, c'est impossible, parce qu'il faut quand même un minimum coordonner les choses avec les collègues. Il faut un minimum voir qui on accueille et qui on n'accueille pas, parce que la meilleure des solutions, c'est pas forcément l'ordre alphabétique, par exemple, etc., etc. Et puis, si on considère que ceux qui sont pas en présentiel, il faut qu'ils se connectent, et ben à ce moment-là, il faut aussi qu'ils aient les moyens de se connecter. Et contrairement à ce qu'on annonce, les établissements ne sont pas forcément prêts, puisqu'on a certains établissements qui attendent encore les licences Zoom, hein, ces fameux logiciels pour se connecter à distance. Il y a des Wi-Fi qui sont pas stables dès lors qu'on dépasse une vingtaine de connexions pour certaines universités. On a des personnels qui travaillent avec leur propre matériel et pas un matériel qui est financé par l'université, etc. etc. Et donc on a des étudiants qui se connectent dans les couloirs sur leur téléphone portable. Et ça, c'est pas une image exagérée, c'est la réalité. Et c'est pas une façon de suivre des cours, ça, c'est pas une façon de suivre des cours.
Anne Roger, co-secrétaire générale du SNESUP-FSU, syndicat majoritaire dans le supérieur, elle répondait à Stanislas Vazak. La rentrée universitaire également perturbée au Royaume-Uni par la pandémie, à peine arrivée sur leur campus, des milliers d'étudiants se sont retrouvés à l'isolement dans leur chambre, soit parce qu'ils ont été testés positifs, soit parce qu'ils ont fréquenté un malade du Covid, un isolement qui commence à peser sur le moral de certains, comme l'a constaté Richard Place sur le campus d'Édimbourg.
Jemima arrive de Londres pour sa première année à la fac. Elle a encore le droit de sortir, mais elle sait que le confinement la guette.
Je pense que ça va sans doute m'arriver. Dans mon bâtiment, il y a déjà plusieurs étages qui sont à l'isolement. Mais je ne panique pas, j'ai des pâtes, du thé au gingembre, plein de nourriture. C'est une période très bizarre.
Un cas suspect, confinement pour tout l'étage, le temps d'avoir le résultat des tests. Un cas avéré et c'est 2 semaines d'isolement strict pour tous les voisins. La vie de confiné est dure dans une petite chambre universitaire et avec des repas fournis par l'université qui suscitent beaucoup de réactions. Certains ne reçoivent qu'un repas par jour, la qualité de la nourriture laisse à désirer quand elle n'est pas carrément périmée depuis 15 jours. Tess a décidé de dénoncer sur les réseaux sociaux ces conditions qu'elle juge inhumaines.
Les prisonniers sont autorisés à sortir, faire des exercices et reçoivent 3 repas par jour, ce qui n'est pas notre cas. Donc nous payons pour un endroit pire qu'une prison en ce moment. Ils nous ont fait venir ici pour une seule raison, prendre notre argent.
Et la présence des étudiants sur le campus n'était pas vraiment une obligation, puisque la plupart des cours sont en ligne et qu'il s'agit le plus souvent de simples vidéos sans possibilité d'interaction. Francisco, masque sur le visage a parfois du mal à comprendre ce qu'il fait là.
Ce n'est pas exactement ce que nous attendions. Ça nous responsabilise encore plus. Nous décidons seuls de travailler ou pas. Il faut se faire son propre planning.
Sachant que les fêtes, soirées ou tout type de rassemblement de plus de 6 personnes sont évidemment interdits.
Toujours au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson promet de faire de son pays le leader mondial de l'énergie verte bon marché, en particulier de l'éolien qui alimentera, dit-il, tous les foyers britanniques dans 10 ans. Boris Johnson devrait annoncer aujourd'hui un investissement équivalent à 176 millions d'euros pour construire la prochaine génération de turbines en mer, un éolien offshore avec 60 000 emplois à la clé selon le gouvernement britannique. En France, c'est la face cachée de notre bilan carbone. Si chaque année, notre pays émet près de 445 millions de tonnes de CO2 sur son territoire, il faut encore compter plus de 200 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre liées à nos importations via nos achats de téléphones ou d'ordinateurs, par exemple, via encore les produits des industries agroalimentaires étrangères mais consommées en France. Il incombe à la France de s'en occuper, selon le Haut Conseil pour le climat qui publie ce matin un rapport sur les émissions importées et l'empreinte carbone de la France. Pour les réduire, ce rapport mise notamment sur un nouvel étiquetage des services et des produits de consommation pour repérer ceux qui émettent le moins de CO2. Tous les députés sont contre les insecticides tueurs d'abeilles, mais entre souveraineté agroalimentaire et défense de la biodiversité, l'Assemblée nationale a finalement voté cette nuit la disposition clé du projet de loi permettant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave. La gauche et quelques marcheurs dénoncent un retour en arrière par rapport à la loi votée en 2016, ce que réfute le député LREM Grégory Besson-Moreau, rapporteur du texte.
C'est pas du tout un recul en arrière. Ce texte, c'est pas une autorisation de mise sur le marché. Ce texte, c'est pas un nouveau produit. Ce texte, c'est la fin des néonicotinoïdes. Depuis 2016, on a arrêté 92% de l'utilisation des néonicotinoïdes. Il restait 8%. Et ces 8%, c'est la première filière au monde de sucre. Donc soit on laisse sur le bas-côté, on met 46 000 emplois à la poubelle, mais 46 000 emplois, pour moi, c'est pas des dégâts collatéraux. Donc on doit les aider et les emmener dans un accompagnement qui soit un accompagnement normal d'une filière. Vous savez, dans une classe, le dernier de la classe, on a deux choix. Soit vous le laissez sur le bas-côté et on le vire de la classe, soit on l'accompagne pour aller à la classe supérieure. Nous, notre réflexion en France est intelligente, c'est de dire on l'accompagne à aller autre part. On l'accompagne à aller au-dessus. C'est exactement ce qu'on fait avec la filière betterave-sucre.
Une position intenable selon l'ancien marcheur Mathieu Orphelin, devenu coprésident du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité.
Le gouvernement veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une solution possible et que le réel, c'est ça, c'est de penser tous comme LREM et comme la solution qui est mise en avant par le ministre de l'Agriculture. Nous ne sommes pas en phase avec ce qu'il propose. Nous, on porte avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité des propositions économiques, par exemple pour assurer les pertes potentielles des betteraviers pour les prochaines années. Le ministre nous dit, mais non, indemniser à 100%, c'est pas possible, c'est contraire aux règles européennes. Mais non, nous on lui propose une solution. 65% payé par l'État, c'est le maximum ce que permettent les règles européennes, mais 35% payé par une cotisation d'assurance des betteraviers. Nous avons mis sur la table plein d'autres solutions. Le gouvernement refuse de les étudier, dont acte, mais qu'il ne nous fasse pas croire que le seul réel possible, c'est d'être d'accord avec LREM et rien d'autre.
Le député Mathieu Orphelin, coprésident du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. C'était un dossier signé Rosalie Lafarge. Le temps de ce mardi 6 octobre, pluvieux sur une grande partie de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 23 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutune.